01 45 24 7000. Jacqueline est en ligne. Bonjour, bienvenue sur Inter.
Bonjour, bonjour. Merci de me prendre à l'antenne. Je voulais savoir si vous envisagez des tournées, si vous en avez les moyens.
Eh bien, bonjour Jacqueline. Oui, bonjour. Absolument, nous envisageons et nous mettons en œuvre des tournées. C'est le cas depuis toujours. Hein. Edmond aura une très jolie tournée l'année prochaine. Il tournera de septembre à juin. Il y a environ 150 dates de tournée. Donc c'est oui, voilà. J'espère que je vais récupérer mes acteurs vivants à la fin, mais ils arrivent. Et puis voilà, on mettra en ligne la tournée à la rentrée. Mais d'où vous êtes, Jacqueline?
Le Finistère.
Oui, on arrive, vous inquiétez pas, on occupera le Finistère.
Le Finistère, on arrive. Très bien. C'est la troupe d'aujourd'hui, c'est la troupe qui joue à Paris.
Absolument, qui va se faire le plaisir de sillonner la France.
Parce que là, évidemment, l'avantage d'avoir de ne pas avoir des vedettes, enfin d'avoir des acteurs moins connus, c'est de pouvoir éventuellement doubler la troupe ou de faire une équipe B.
C'est vrai, mais c'est le cas avec mes autres spectacles déjà, donc c'est pas nouveau. Le Porteur d'Histoire, Le Cercle, effectivement, au bout d'un moment, ils partent en tournée, et donc si la pièce continue à Paris, il faut bien les remplacer, en tout cas trouver des alternants. Et donc sur Le Porteur d'Histoire, il y a quatre équipes qui se croisent en permanence, ça joue continuellement à Paris et en tournée, et du coup ils ont pu bouger vraiment aux quatre coins du monde. Ils sont partis en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, au Liban, au Maroc, en Algérie, enfin, dans des endroits géniaux, et tout en continuant à jouer à Paris.
Bon, c'est l'avantage du système Michalik.
Du système Michalik, c'est ça. Oui.
Non, vous en faites un système seul, ou pas, non?
Non, pas du tout, parce que ça arrive chez tous les autres. Il y a d'autres metteurs en scène qui font du théâtre de troupe. Je pense à Sébastien Zopardi, mais il y en a 10 000. Hein. Enfin, il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quelques-uns, en tout cas. Et effectivement, quand un spectacle n'a pas de tête d'affiche, on n'a pas de limite de temps, si ce n'est le public. Tant que le public est là, on peut continuer à jouer.
Alors, puisqu'on parle d'acteur, vous êtes acteur. Vous avez commencé vous-même, Alexis Michalik, sur les planches à 19 ans, je crois, dans le rôle de Roméo.
Absolument, mise en scène par Irina Brooke à 18 ans même, très
précisément. 18 ans,
exactement, ouais. Et c'était, et je pense que surtout, c'est elle qui m'a donné, Irina Brooke, qui m'a donné le goût de la mise en scène, à mon avis, parce qu'elle faisait un théâtre, très humaniste, humain, où elle cherchait des gens très différents, et pendant une semaine, on se retrouvait à jouer à la balle aux prisonniers, à faire des impros. Je me suis dit, ah oui, mais moi j'avais une vision très scolaire du théâtre, hein, jusque-là, et là vraiment, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, mais c'est ça la mise en scène. On peut se permettre des choses aussi incroyables. Et voilà, et à partir de ça, moi j'ai beaucoup joué à la télévision et puis un petit peu au cinéma aussi. Et puis j'ai jamais arrêté de jouer. Hein,
et à la télévision, on vous voit dans Kaboul Kitchen.
Tout à fait, absolument.
La série sur Canal, où vous écrivez aussi un petit peu.
Ouais, j'ai écrit. On m'a vu aussi dans Versailles, où je suis mort d'une mort terrible. Je suis mort et remords au début de la saison 2. Désolé pour ceux qui n'ont pas vu encore.
Bon, et ça vous amuse, vous allez continuer
à faire moi j'adore. Moi, en fait, jouer, c'est comme ma récréation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on n'a pas à porter le poids de plusieurs personnes qui engagent leur vie dans un projet pendant parfois plusieurs mois, plusieurs années. On vient, on apprend son texte, on nous propose un petit café. C'est génial, c'est un bonheur de jouer.
Parce que vous êtes accompagné ou assisté. D'où vient votre... fascination ou votre tropisme, je sais pas, pour le théâtre du 19e siècle.
C'est pas tant pour le théâtre, c'est vraiment pour le 19e siècle.
Ah, c'est le 19e.
Moi je suis parisien et en tant que parisien, le 19e siècle, c'est un siècle fascinant. Il s'est tout passé dans ce siècle. Il y a eu trois républiques, monarchies, empires. On a eu. C'est le siècle du théâtre à Paris. Le 19e, c'est vraiment le siècle où Paris est centre du monde pour moi, puisque c'est les grandes transformations haussmanniennes. C'est le moment où on passe de un théâtre, voire deux théâtres, avec les comédies françaises, comédies italiennes, à des centaines, des dizaines de théâtres où les gens se massent, le public vient en masse, puisqu'il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télévision. Et donc, il y a des pièces monumentales. Dumas, Hugo, ils écrivent des pièces de 8 heures. Il y a des théâtres de 2000 places, 3000 places, des batailles navales. Enfin, il y a des choses extraordinaires. À Paris, au 19e siècle, les gens sont dans les théâtres, les gens sont dans la rue. C'est extrêmement excitant. Et puis, c'est le début de l'électricité, c'est les grandes expositions universelles, tout le Paris tel qu'on connaît aujourd'hui, les immeubles de rapport haussmanniens, est né au 19e siècle. Donc c'est fascinant, ce siècle me fascine.
Ça vous fascine. Vous irez quand même un jour sur des sujets contemporains?
Dans le 19e
siècle. Non, sur des sujets contemporains.
Bien sûr, c'est le cas de mon dernier bébé, ma dernière pièce qui s'appelle Intramuros, qui a été créée au Théâtre 13 et qui reprend à Avignon cet été, au Théâtre des Béliers, et puis à partir de septembre au Théâtre de la Pépinière, et qui se passe en prison dans un univers contemporain.
C'est vraiment l'inverse de ce que vous aviez fait jusqu'à présent.
Tout à fait, mais justement, j'aime bien aller là où il y a un moment où c'est bon, le cycle théâtrique historique est refermé, il faut passer à autre chose.
Alors, question d'Emmanuel qui nous appelle de Paris. Bonjour.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je vous appelle pour savoir si faire un théâtre de gauche, c'est pas déjà faire un théâtre qui soit accessible en termes de prix. Parce que quand je vois le prix des places au théâtre du Palais Royal, c'est vraiment pas accessible à tout le monde.
Oui, vous avez tout à fait raison là-dessus. Mais en ce qui concerne les prix, c'est vraiment pas ma propre responsabilité. On est dans une logique de théâtre privé et dans une logique de théâtre privé, il faut bien réussir à rentrer dans une économie réaliste. Et ça, c'est la direction du théâtre qui s'occupe de gérer les prix. Moi, s'il n'en tenait qu'à moi, mes pièces seraient gratuites, tout le monde pourrait rentrer, ce serait merveilleux.
On va préciser les choses. On me l'a dit en régie tout à l'heure. Première catégorie, c'est 60 euros à peu près.
Oui, c'est ça, au théâtre du Palais Royal. Après, c'est pas le cas de mes autres pièces non plus, ça dépend. Et je pense que c'est aussi pour ça que je tiens absolument à revenir à Avignon et que je reviens tout le temps à Avignon. C'est parce que Avignon, les places sont moins chères, c'est un théâtre plus populaire. En tournée, c'est pareil. Mais en ce qui concerne Paris, on ne peut pas aller. Moi personnellement, c'est pas moi qui fixe les places, mais évidemment que si je pouvais, le monde pourrait venir. Quoi.
C'est pas une excuse, mais 60 euros, il y a beaucoup plus cher dans les théâtres privés parisiens. Il y a aussi moins cher, mais pour les premières catégories en tout cas. Nous avons des appels éloignés. André qui vous demande la pièce Edmond viendra-t-elle jusqu'à la Réunion? Est-ce que c'est prévu? Vous savez ça? L'île de la Réunion?
Non, parce qu'on est venu à la Réunion avec les précédentes, avec le cercle, Intramuros et le porteur. Edmond, c'est quand même beaucoup plus lourd. Alors, je pense que les acteurs seraient ravis d'aller à la Réunion, mais on va voir si c'est possible. Parce que dès que c'est des longues tournées, en fait, il faut prévoir du bateau, ou alors acheminer le décor, ou alors le construire là-bas. Ouais. Donc, c'est plus compliqué, mais pas impossible.
Il y a pas mal de décors, quand même.
Et d'acteurs.
Et pareil, voilà. Comment peut-on faire? Oh là, oui, question très intéressée. Comment peut-on faire pour intégrer le casting du film qui va être produit? Henri, qui demande ça.
Bien sûr, c'est très simple. Non, alors je vais pas vous dire de m'envoyer votre CV, sinon je vais en recevoir beaucoup trop. Il faut espérer. Attendre et espérer, comme disait Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo.
Bonjour, Augustin Trapenard.
Salut, Patrick.
Vous avez une question pour notre invité?
Oui, bonjour, Alexis Michel. Bonjour, Augustin. J'étais très intéressé par ce que vous disiez juste là sur le cycle de théâtre historique, parce que ce qui est vraiment intéressant avec cette pièce Edmond, c'est qu'elle parle de théâtre en fait, et aussi d'une époque où le théâtre avait une autre place, un autre sens, une autre résonance dans le débat public. Je me suis demandé, qu'est-ce que vous dites à travers ce spectacle, Edmond, sur la place du théâtre aujourd'hui?
C'est une très bonne question. Je trouve que le évidemment la pièce est, il y a des anachronismes. Enfin, ça pourrait se passer aujourd'hui, clairement. Moi, j'imagine que ce que je décris, c'est évidemment basé sur des trucs que j'ai lus. Je me suis intéressé à la période, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui viennent de mon expérience personnelle entre les acteurs, les producteurs, l'auteur, le metteur en scène. Edmond, je raconte la création d'un spectacle du point de vue d'un auteur metteur en scène, en fait. Donc c'est évidemment très personnel. Maintenant, ce que ça dit sur le théâtre aujourd'hui, je pense pas que j'ai un discours particulier sur le théâtre d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis pour l'existence de tous les théâtres. J'aime autant aller à la Comédie Française, à la Colline, dans le privé, voir des comédies musicales. Je vois tout.
Oui, puisqu'Edmond, c'est plein à ras-bord. Vous pourriez nous conseiller des spectacles que vous avez aidés. Oui, d'autres spectacles. Oui, parce que là, il n'y a plus besoin de faire de la pub pour vous.
Il y en a plein des bons spectacles.
Alors,
en fait,
dites-nous.
Moi, ce que j'aime.
Ouais.
Là, vous me prenez à brûle pour point. En plus, je ne sais pas ce qui continue à se jouer en ce moment. Là,
Le dernier
spectacle de Sébastien Azopardi, Oh My God, qui est très irrévérencieux, qui continue à jouer, qui vient de se démarrer au Théâtre Tristan Bernard, vous pouvez aller voir ça. Qu'est-ce que je suis allé voir à la Comédie Française? Je suis allé voir Le Fédot, mis en scène par Isabelle Nanty. Oui. C'est pas mal, c'est un peu rythmé. Moi, je suis un obsédé du rythme, mais c'est pas mal. Je suis allé voir Le Grimbert hier, Pascal Rambert, la Comédie Française il y a deux jours. Très intéressant, une émission de radio. Enfin voilà, moi je suis pas chroniqueur. En plus, moi je suis pas critique. Donc je ne fais qu'encourager, je ne parle que des spectacles que j'aime et que j'encourage les gens à aller voir. C'est la différence de posture.
C'était ma demande. Et Feydeau et Courteline sont dans votre pièce. Vrai, ils sont parfois un peu ridicules. Vous avez du respect pour eux quand même.
J'ai
pour
beaucoup leur, de respect, mais moi, c'est des taquinades. Ça me fait beaucoup rire de portraiturer Feydeau en winner insupportable.
Oui. Voilà,
comme quelqu'un qui évidemment tout marche pour lui et donc il est extrêmement arrogant et puis il se la raconte un petit peu. Mais j'imagine que pourquoi pas. C'était peut-être le cas.
Hein. Il a une postérité formidable.
Oui,
Feydeau,
bien sûr.
Il est joué sans discontinuer.
Exactement. Moi, j'adore Feydeau, bien sûr. C'est pour ça que je me permets ça.
Très bien. Augustin Trafnard, Boomerang dans 10 minutes.
Je reçois une formidable artiste qui s'appelle Prune Nourrie, Patrick, dont le premier livre qui retrace l'intégralité de son travail vient de paraître. Alors, elle a par ailleurs une carte blanche au Musée des Arts Asiatiques, le Musée Guimet, où elle dialogue en fait avec des œuvres de la collection permanente. C'est époustouflant et surtout, c'est vraiment passionnant sur l'ailleurs, sur l'autre, sur ce que c'est que la création. L'artiste Prune Nourrie est dans Boomerang, évidemment.
À tout à l'heure, Augustin.